Je me croyais sur les petites annonces.
10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonjour mes camarades, oui c'est encore Maître Serin, le même Maître Serin qui était présent il y a quelques minutes à l'émission d'Adil Farkan. D'ailleurs, vous savez mon cher Manu, je viens de recevoir à l'instant les audiences de l'émission d'Adil. Eh bien sachez que l'audience n'a jamais été aussi importante. Je crois franchement qu'Adil nous doit beaucoup. D'ailleurs, oh, à la question, lequel des intervenants a été le plus intéressant, eh bien je vous le donne en mille, c'est Maître Serin qui apparaît en tête de liste, juste derrière moi. Vous êtes cité. Et la question qui concerne l'intervenant le plus gros, et pourtant on est à la radio, hein, eh bien parmi les intervenants les plus gros, surprise, ex aequo, Abdel Ali et vous-même, mon cher oui. Manu. Et enfin à la question, qui est le plus chauve? Et je le rappelle, pourtant on est à la radio, et c'est Kim qui arrive à garder la tête, comme tous les ans, à cause de sa coupe, ou en tout cas de son absence de coupe. D'ailleurs, puisqu'on est sur le thème du physique, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site de Beurre FM. Le site, alors il est bien fait. Hein. Et là, à un moment, je clique pour avoir des informations sur l'émission d'Adil et tu tombes sur la photo d'Adil. Tu sais quoi, frère? Oh là, j'ai pas reconnu le type sur la photo. Adil, frère, au moment où t'as fait la photo, t'étais zafan, traduction énervée. Tu le vois sur la photo, le type, il est trop fâché. Du genre, ouais, c'est moi, Adil Farkan, je suis journaliste. Et oh là, si tu soutiens le contraire, je vais te faire du mal. Oh, Adil, tu peux pas lui demander un selfie. Il peut te mettre un coup de boule. Pourquoi tant d'énervement, Adil? Pourquoi tant d'énervement? Alors que c'est l'esprit de Noël. Eh oui, l'esprit de Noël. Ah, Noël, je sais pas pour vous, mon cher Manu, mais moi, j'ai déjà décoré mon sapin, des guirlandes lumineuses, des boules rouges et blanches. Alors oui, j'entends les boulahias en train de dire « Al Shaitan, Maître Serin, il a un sapin ». Ouais, d'accord, c'est peut-être pas initialement notre fête, mais le sapin, frère, moi j'aime ça, alors ton avis, je m'en fous, j'aime l'esprit de Noël, j'aime décorer le sapin avec mes enfants, et en plus, comme dirait mon client, moi je te merde, j'ai toujours un client qui me dit ça, parce qu'à chaque fois qu'il me parle de son patron, il me dit, maître, le patron à chaque fois, alors il s'appelle Hassan, le patron à chaque fois il me dit, ramasse les palettes, et moi je lui dis, non patron, moi je te merde, c'est à quoi je réponds, mais monsieur Hassan, c'est peut-être pour ça en fait qu'il vous a licencié, allez, j'arrête de parler de monsieur Hassan et de son expression je te merde, et je vous souhaite à tous, mes camarades, un joyeux Noël, et maintenant, je vais vous inviter, mes amis, à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Si tu veux avoir Maître Serin en direct, tu peux m'appeler directement au 06 62 58 59 64 ou m'envoyer un mail maître.serin@gmail.com. Alors oui, je fais ma propre promo car j'ai constaté, mon cher Manu, que la dernière fois, contrairement à notre ami Felipe Robichon, vous n'avez à aucun moment cité mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez,
Beurre c'est FM, parce que je le connais pas, droit. Mourad.
C'est parti. Je taquine.
Eh oui, bien sûr. Non, mais alors, bon, vous citez votre numéro de téléphone. Vous avez oublié de citer le 3615 Maître Mourad aussi.
Ouais, mais là, ça fait un peu vieillot. Ça.
Vous l'avez fermé, votre service militaire.
Ouais, c'est terminé. Bon. Ouais, mon service de site de poup.
Bon.
Ouais, okay. C'est terminé. J'ai changé d'activité.
Bon, on va parler d'un truc un petit peu vieillot aussi aujourd'hui, Maître Serin. On va parler de la bigamie. Vous avez lu un article qui vous a un peu hérissé le poil.
Ouais, complètement. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Et ça en dit long aussi. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du changement d'état d'esprit, mais ça en dit long aussi sur cette décision. C'est une décision qui a été rendue par un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux. Et c'est une décision.
Donc ça se passe bien en France.
Bah voilà, c'est quand même assez particulier. On a une femme donc qui saisit le juge aux affaires familiales pour engager une procédure de divorce. Elle invoque comme motif, qui peut sembler légitime et sérieux, le fait que son mari soit parti au pays et celui-ci s'est marié. Donc, il a une seconde épouse qui est possible. Là, en l'occurrence, c'est dans un pays du Maghreb, donc ce qui est possible en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Donc, le mari a une seconde épouse et la femme se dit légitimement, tiens, c'est quand même assez curieux, je vais engager une procédure de divorce pour faute. Elle engage la procédure de divorce pour faute. Le mari reconnaît la situation. Alors, c'est là où c'est quand même aberrant. Et la décision du juge aux affaires familiales étant de dire que, certes, le mari s'est remarié au pays, pour autant, on considère que ce n'est pas un motif sérieux qui pourrait légitimer une procédure de divorce pour faute. Et donc, le fait encore une fois, là, on est en matière de bigamie. Le fait d'avoir une seconde épouse, manifestement, n'a pas irrité le juge et le magistrat a juridiquement considéré qu'il n'y avait rien à reprocher. Je rappelle quand même que la bigamie est un délit, hein. Alors, c'est un an d'emprisonnement, c'est 45 000 euros d'amende. Je rappelle aussi qu'il y a un article du Code civil qui dit on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, c'est-à-dire que la demande de madame était légitime et juridiquement fondée, et il se trouve quand même qu'on a un magistrat, en tout cas au tribunal de grande instance de Meaux, qui a considéré que le fait pour monsieur d'aller contracter un second mariage ne posait manifestement pas de difficulté.
Est-ce que ça pose pas un problème de droit, parce que quand même les juges sont censés faire appliquer la loi? En France, la bigamie est interdite. Là, il y a une bigamie avérée qui est même avouée par le reconnue par le prévenu. Enfin, le prévenu, c'est on peut parler de prévenu là.
Non, ouais, on peut pas parler de prévenu. On n'est pas aux assises. Ouais. Mais voilà, on va parler de défendeur.
Voilà, celui de défendeur. Qui en gagne, c'est le demandeur. C'est reconnu, assumé par le défendeur, et donc c'est.
Alors, j'ai pas réussi à savoir. Alors, il faut savoir que c'est la juridiction de première instance, c'est-à-dire c'est la première décision qui a la possibilité d'interjeter appel. J'ai pas réussi à avoir le confrère qui gérait ce dossier pour lui demander si sa cliente, mais enfin moi ça me semble évident maintenant, si sa cliente a décidé d'interjeter appel ou pas, parce que c'est ça qui va être important.
Mais là, on a l'impression qu'ils ont jugé plus sur la forme que sur le fond, en fait.
C'est complètement ça. Moi, ça, encore une fois, je suis quand même sidéré qu'un juge français puisse considérer que tout ça ne pose pas de difficulté. C'est donner quand même peu de considération d'abord à madame, mais peu de considération aux lois de ce pays. Donc c'est vrai que ça me sidère. Et pourquoi ça? J'ai trouvé ça inquiétant parce que, mais moi je le vois aussi au niveau de mes clients, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes, moi, qui viennent me dire, maître, alors les personnes qui sont mariées, hein, qui viennent me dire, je vais aller au pays, donc je vais contracter un nouveau mariage et dans l'absolu, pourquoi pas? Je dis pas que c'est forcément la bonne option, mais pourquoi pas? Mais leur raisonnement va encore plus loin et ils me disent, est-ce que je peux faire venir la seconde épouse dans le cadre du regroupement familial? Au moment où je vous parle, et je leur dis, techniquement, c'est pas possible.
Bah c'est-à-dire non, évidemment, parce que là, ça veut dire qu'on entérine la bigamie sur le territoire français. Là,
c'est exactement ça. Donc, c'est vrai que...
Vous imaginez si ça fait jurisprudence, le bordel, Metzeran?
Si ça fait jurisprudence, alors tant mieux pour ces messieurs, voilà, qui seraient tous ravis. Après, pour les premières épouses, je sais pas si elles vont apprécier ça. Mais, alors, vous avez parfois le client qui vous écoute et qui dit, bon, bah d'accord, j'ai bien compris, je le ferai pas. Et vous en avez d'autres qui viennent vous voir pour vous dire quoi? Pour vous dire que j'ai fait une demande de regroupement familial pour la seconde épouse et ça m'a été refusé. Bah oui, la bonne blague. Évidemment, et à minima, ça on peut l'entendre, elle comprend.
On est en France, les amis.
Non, mais c'est ça qui est.
Comme le disait Abdelali tout à l'heure.
Encore une fois,
c'est l'islam républicain, c'est-à-dire que les lois priment sur
mais
le reste.
C'est exactement ça, et on peut l'entendre et le comprendre. Mais et puis. Bon, j'allais presque dire, ça va toujours dans le sens des hommes, tout ça. Vous voyez, c'est ça aussi qui est un peu particulier. Imaginez 30 secondes que madame dise à monsieur, bah tiens, je vais me marier à l'étranger, je vais le faire venir. Monsieur en penserait quoi?
Donc, d'ailleurs, j'ai une question, Maître Serran. Est-ce que vous savez si le juge sur cette affaire, c'était un homme ou une femme?
C'est une femme.
En plus? Ouais. Ah bah attendez, alors là on...
Ouais, mais bon, après, encore une fois, voilà, c'est les... Non, mais vraiment, en tout cas, dans les décisions, initialement...
Elle était très progressiste, alors.
Voilà, mais moi, sincèrement... ouais, voilà, on peut peut-être l'expliquer comme ça, mais sincèrement, je pense pas, enfin... à mes débuts, je pensais en me disant, bah, si c'est un homme, il ira forcément dans ce sens-là, et si c'est une femme, elle ira forcément dans ce sens-là. Je crois qu'évidemment, voilà, donc tout ça a évolué. Mais je trouve ça quand même sincèrement assez aberrant. Et puis la déception de cette femme, et puis l'explication que son avocat doit lui donner, parce que j'imagine qu'il a dû lui jouer du violon et lui dire, attendez, effectivement, juridiquement, ça tient pas la route. Et c'est le même discours que j'aurais pu tenir. Quand vous recevez ça, c'est un coup de gourdin sur la tête, quand
bien
même.
Bien sûr. Bah, moi, j'ai envie de demander aux auditeurs s'ils ont des cas, justement, des témoignages à apporter sur ce domaine-là, des histoires de bigamie, en fait, de demandes de regroupements familiaux, etc. Vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. Idem si vous avez des questions d'ordre juridique à poser à Maître Serran, ou si vous voulez juste lui dire bonjour, il aime ça aussi.
Aussi, bien sûr.
Il aime ça aussi. 01 53 48 3000. Voilà. Alors, moi, je voulais vous poser une question, Maître Serran, c'est que il y a énormément de gens dans la communauté qui par exemple sont mariés en France à la mosquée et à la mairie. Et puis, quand ils divorcent de leur femme, quand c'est le cas, ça arrive, ils divorcent de leur femme, ils se contentent de divorcer uniquement à la mosquée, et puis ils restent mariés
civilement.
Pourquoi, pourquoi ce réflexe dans la communauté de se dire, ça suffit de divorcer à la mosquée, après l'administratif, étatique, je m'en fous un peu.
Alors, ouais, c'est vrai que quand on me tient ce genre de discours, moi je trouve ça assez contradictoire. C'est-à-dire que les personnes vous disent, moi je veux être, entre guillemets, clair à l'égard de Dieu. Bon, alors, dont acte, et c'est tout à fait respectable, et il n'y a pas de difficulté là-dessus, je peux l'entendre et le comprendre. Sauf que, on peut vouloir être clair à l'égard de Dieu, et encore une fois, il faut accepter les lois dans le pays où on se trouve, et il se trouve que si vous allez obtenir une séparation sur un plan purement religieux, sur un plan purement civil, vous restez toujours monsieur et madame.
Mais
et
oui, en plus, ça déclenche plein de tracasseries administratives, j'imagine.
Ça déclenche des tracasseries administratives parce que, alors, il faut reconnaître que c'est souvent monsieur qui prend l'initiative, j'ai pas d'ailleurs, je crois, d'exemple où c'est madame qui s'est amusée à ça, et monsieur prend cette initiative sur un plan purement religieux, et puis lui considère, en faisant abstraction totalement de son mariage civil, donc qui est un mariage officiel, c'est transcrit, ça apparaît sur les actes d'état civil, et donc va, entre guillemets, essayer de faire sa petite vie. Alors très souvent, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il va pas se remarier sur le territoire français, ça passera pas, mais il retourne dans le pays d'origine, et puis là, il va faire un autre mariage, comme si de rien n'était.
Rebigamie, quoi.
Oui, donc c'est vrai que il faut savoir que, indépendamment de l'aspect purement moral, mais je suis pas ici pour jouer le moraliste, mais sur un plan purement juridique, madame se trouve complètement démunie. C'est-à-dire que, à la fin, c'est à madame de prendre, dans ce cas-là, l'initiative de la procédure, ou alors d'attendre un délai de 2 ans, de faire constater par le magistrat que depuis 2 ans ils sont séparés, et puis le divorce sera prononcé. Mais voyez, encore une fois, c'est toujours madame qui est mise en porte-à-faux, alors qu'initialement elle n'a pas pris l'ombre d'une initiative.
Elle est plutôt victime, voilà. Un peu, on va dire.
Donc,
ouais.
Et donc il y a une sorte, voilà, on est doublement victime de monsieur qui va faire le beau. Et puis, en règle générale, au sein de la communauté, quand vous atteignez 50, 60 ans, on a envie de faire le beau avec une jeunette. Je m'inquiète un peu parce que j'ai 50 ans. Alors,
est-ce que c'est pas le même qui va se plaindre en disant ouais, on n'est pas intégré?
Non, mais c'est ça qui est fou. C'est pour ça que ils aiment bien interpréter les choses, mais uniquement que dans leur intérêt. Donc c'est, moi je trouve ça quand même aberrant. Encore une fois, le divorce est permis dans ce pays. Et ben après, pour des raisons X ou Y, légitimes ou pas, on peut engager une procédure de divorce. Mais de là à faire, pardon pour l'expression, mais un bébé dans le dos à madame, et puis soit de partir tout simplement, ou parfois ils mènent une vie normale et puis ils vont se marier au pays. Enfin voilà, moi je trouve ça quand même aberrant. Mais vous avez raison, hein, j'ai parfois des échanges avec des personnes de la communauté qui trouvent que tout ça est tout à fait normal et que ça pose pas de difficultés. D'ailleurs, on vous dit quoi? On vous dit, bah oui, mais on a le droit d'avoir plusieurs épouses. J'avais à l'époque posé la question à l'imam, qui m'avait répondu que oui, mais dans des conditions très particulières. Par exemple, si votre épouse, voilà, peut pas tomber enceinte, bon, il y a des exceptions qui font que, après, on peut les critiquer si on veut, mais voilà, il y a des exceptions particulières. Parmi les histoires que je connais, j'ai pas vu une seule des personnes être dans ces exceptions. C'est-à-dire, la seule exception, c'est dire que sa première épouse était peut-être un peu trop grosse ou un peu trop vieille, et puis il s'est retourné vers une demoiselle un peu plus jeune.
D'accord. Bon, on va prendre un appel, Maître Serran. On a Rachid qui nous appelle du Val-de-Marne. Alors, Rachid, bonjour. Allô, allô. Allô, Rachid.
Rachid.
Est-ce que Rachid nous entend? Non, Rachid n'est pas là.
Il est muet.
Eh ben, on va prendre l'avis d'une dame, Nawel, qui nous appelle du 78. Bonjour, Nawel.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bonjour.
Ah, mais vous nous dérangez pas. On est là pour vous, Nawel.
Parfait. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas, et de vous écouter régulièrement. Alors, en fait, je voulais avoir votre avis. Je me trouve malheureusement dans ce cas de bigamie. Donc, en fait, le père de mes enfants s'est marié religieusement sans m'en informer, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis séparée avec lui, donc j'ai décidé d'entamer une procédure de divorce, sauf qu'il... moi, à la base, en fait, je voulais pas faire d'histoire, je voulais faire ça à l'amiable, sauf que là, en fait, il se montre très...
Procédurier, non?
Virulent.
Voilà.
Alors, quand vous dites à l'amiable, il y a deux exceptions. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disent à l'amiable, c'est-à-dire que bon, chacun prend son avocat, on va aller voir le juge et puis on se tape pas dessus. Et après, il y a vraiment la procédure à l'amiable qui, sur le territoire français, se fait auprès d'un notaire. Alors chacun doit avoir son avocat pour rédiger le document, et ensuite c'est validé par un notaire. Il faut savoir quand même que ce divorce-là, pour les personnes qui sont soit de nationalité, alors algérienne, marocaine, tunisienne ou d'autres, ou c'est de double nationalité, ce sont des divorces qui ne sont pas reconnus au pays. Donc il faut aussi faire attention à ça.
D'accord, mais ça je savais.
Voilà,
pas,
hein, parce que vous aurez voilà une belle décision des autorités françaises, mais les pays du Maghreb, entre autres, ne reconnaissent pas le divorce à l'amiable tel que pratiqué sur le territoire français, au motif que si c'est prononcé par un juge, on accepte, mais si c'est prononcé par un notaire, qui n'est pas, encore une fois, qui fait pas partie de la
représentatif.
Enfin, c'est pas un magistrat.
Habilité,
ouais. Donc voilà, donc faut faire attention à ça. Hein. On a parfois des gens qui se plantent là-dessus.
Alors, maître Sarane, moi j'ai une question. Excusez-moi, Nawel, parce que je pense que ça va pouvoir aussi vous répondre à certaines de vos questions. Maître Sarane, quel conseil vous donneriez aux auditrices qui éventuellement veulent se marier dans un cadre et religieux et républicain, hein, à la mairie, administratif, pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de façon préventive?
Non. La difficulté, vous voyez, Nawel disait que monsieur s'est marié religieusement.
Oui.
Bon, religieusement. À partir du moment où vous vous mariez, et puis ça apparaît sur un acte d'état civil, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de difficulté. Mais religieusement, comment vous voulez-vous établir ou prouver que monsieur a pu se marier religieusement? C'est quasi impossible,
c'est pas inscrit sur un registre dans une mosquée,
mais même chose, c'est-à-dire que il faut savoir c'est à l'intéressé qui invoque ça d'apporter la preuve, la charge de la preuve lui incombe, donc il va falloir quand même faire des pieds et des mains.
Allez-y Nawel, on vous écoute. Nawel.
En fait, si je peux me permettre, dans mon cas, il a fait deux enfants qui sont reconnus, c'est-à-dire qu'il porte le même nom que le père de mes enfants.
Alors, il n'y a pas besoin d'être, entre guillemets, officiellement marié pour ça, mais voilà, c'est quand même une preuve, j'allais dire, de son infidélité. Donc, ça, vous pouvez l'établir.
Voilà. D'accord. Donc, j'ai tout intérêt à engager une procédure face à un juge plutôt que de passer par les notaires.
Ah bah, moi, ça me semble plus prudent pour vous. Donc, vous pouvez engager une procédure. Voilà, vous allez saisir, d'abord un avocat, puisque l'avocat est obligatoire, et puis il vous orientera en la matière. Mais à partir du moment où vous pouvez aussi établir, ou en tout cas prouver que monsieur a aussi deux enfants, vous êtes, entre guillemets, sur la bonne voie.
D'accord.
Voilà, Nawel. On va devoir marquer une pause. Merci de votre appel, Nawel.
Bonne journée à vous. Merci.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite avec Maître Sarane.
À votre service, reviens dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, à votre service avec Philippe Robichon.
Eh oui, de retour. Avec Maître Sarane, la bouche pleine.
Oui, avec un petit sablé.
Maya vient de nous offrir des sablés en forme de petit cœur. C'est mignon. Alors, j'ai un peu la bouche pleine. Du coup, je vais vous laisser prendre le relais, Maître Sarane, avec Adil. Adil qui nous appelle de Clamart. Bonjour, Adil.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître Sarane.
Non, c'est Manuel, l'appareil.
C'est pas Philippe, mais voilà.
On n'avait pas le bon jingle, c'est pas grave.
Mais c'est le bon Maître Sarane.
Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
On vous écoute.
Donc, je vais être rapide. Je m'étais marié en 2015 au Maroc avec une Française et on est parti vivre au Maroc pendant 2 ans et après on est retourné en France pour qu'on continue nos études parce que j'étais étudiant à la base en France et une fois on est rentré, il y a eu des problèmes et on s'est séparé au bout de 3 mois.
D'accord.
Donc aujourd'hui madame est à la procédure d'un divorce à l'amiable. On n'a pas de biens entre nous, on n'a pas d'enfants. Et madame la juge voulait procéder à une enquête de compétence, si je prononce bien le terme.
Oui, pour voir si la juridiction française est compétente.
C'est ça, mais elle était un peu tendue quand elle avait dit ça. Elle nous a dit, les deux avocats, comme quoi on se pose des questions parce que vous êtes séparés au bout de 3 mois. Donc vous avez quitté le coup.
Excusez-moi Adil, mais pour qu'on comprenne bien, en tous les cas moi je comprenne bien, c'est-à-dire que vous étiez marié uniquement au Maroc, mais vous n'aviez pas fait valider ce mariage en France encore.
Si, je l'ai validé.
Ah d'accord,
enfin, okay. C'était transcrit, ça apparaissait sur les actes d'état civil.
Effectivement.
D'accord, et donc la question qui vous est posée, ou l'inquiétude du magistrat, c'est quoi?
Elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que vous êtes restés longtemps ensemble ou pas? Donc madame a répondu qu'on est restés 3 mois ensemble, que 3 mois, et moi j'ai donné la même réponse. Elle m'a dit, bon, on a le droit de se poser des questions. pense qu'on va procéder à une enquête de compétences.
C'est l'expression enquête de compétences que je comprends pas. C'est-à-dire que parfois le juge français se pose la question de savoir s'il est en droit ou dit territorialement compétent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que moi, juge français, je peux prononcer le divorce de ce couple, ou alors est-ce que le divorce ne peut relever que de la compétence d'un magistrat au pays? Donc ça, c'est une question de compétence. Mais j'ai l'impression que dans votre esprit, ça voudrait dire autre chose, puisque vous liez ça au fait d'avoir été avec madame 3 mois. Mais vous êtes marié depuis longtemps avec madame, non?
On est marié depuis longtemps au Maroc.
Oui, mais le fait d'être marié longtemps au Maroc, en Turquie, au Togo, n'a pas d'incidence. Ouais. Si c'est longtemps au Maroc, c'est donc de facto, c'est pas par rapport au pays, c'est par rapport à votre épouse. Pourquoi vous me dites que vous me parlez que de ce délai de 3 mois? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
En fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai eu une carte de séjour de 2 ans, conjoint de France, conjoint français. Mm-hmm. Et ma carte de séjour s'expire octobre 2019.
D'accord.
Si il procède à une enquête de compétence, ça prendra beaucoup plus de temps.
Le terme enquête de compétence, dit comme ça n'existe pas. Alors, est-ce que ça voudrait dire, en tout cas dans votre esprit, qu'on se pose la question de savoir que vous seriez marié avec madame que pour les papiers? Est-ce que ça, votre question, ce serait ça? Parce que enquête de compétence, je vois pas ce que ça veut dire.
D'accord. Je vais m'expliquer rapidement. Donc, en fait, moi, quand je suis rentré, madame est rentrée toute seule dans un premier temps.
D'accord.
Devant madame la juge. Donc, la question est, est-ce que vous avez eu un foyer conjugal?
Ouais.
Est-ce que vous habité ensemble longtemps en France? Mmh. Parce qu'après, quand on est rentré ensemble, elle a dit, je trouve ça bizarre que vous êtes resté 1 an et demie au Maroc pour obtenir un visa. Une fois que vous êtes allé en France au bout de 3 mois, vous êtes séparés.
Oui, alors là, ouais. D'accord.
Ouais, le timing joue pas en votre faveur, on va dire.
Voilà, là, c'est plus clair. C'est-à-dire que, de ce que vous me dites, le magistrat se pose, alors légitimement ou pas, la question de savoir si tout ça n'a pas été fomenté, si en gros c'est pas un mariage artificiel, simplement. Et comme dit Manu, au niveau du timing, pour vous permettre d'avoir une situation pérenne sur le territoire français. Donc la question, c'est ça. C'est-à-dire que le juge, vous l'a peut-être pas dit directement, mais pense que c'est ou ce serait un mariage blanc ou un mariage gris. En tout cas, un mariage pour des papiers. Voilà. Bon, de toute manière, là, l'ambiance avec madame, c'est quoi? C'est-à-dire que vous faites la guerre, ça tout se passe bien?
Non, la guerre était tout début et après, aujourd'hui, ça se passe très très bien.
D'accord. Donc, c'est le motif qui sera retenu par le magistrat qui va être important. C'est-à-dire que si le divorce, monsieur, est prononcé à votre tort, comme on dit, à votre tort exclusif, c'est-à-dire que le juge considère qu'en gros, le méchant, c'est vous et que vous avez ou que vous auriez manipulé madame, tout ça, pour avoir des papiers. Donc, si tout ça transparaît dans la décision, il est certain qu'il faudra un moment ou un autre rendre des comptes auprès des autorités préfectorales.
Oui, mais Adil, avant d'avoir une carte de résident en tant que conjoint, vous aviez des papiers en tant qu'étudiant, j'imagine?
En fait, ce qui s'est passé, j'étais étudiant et au bout d'un moment, je n'avais plus d'inscription. C'est-à-dire que je n'avais pas validé mon inscription à temps. Et je me suis retrouvé dans
ça non plus, ça joue pas en votre faveur, on va dire.
Ça fait un peu l'étudiant, artificiel. Mmh. C'est toute la difficulté. Alors parfois légitimement.
Ah, parce que sinon, j'allais vous dire, vous perdez votre statut de résident conjoint, vous redevenez étudiant. Mmh. Mais là effectivement, c'est encore un truc qui joue pas en votre faveur là.
Le raisonnement est parfois bête et méchant en disant qu'il a fait entre guillemets semblant d'être étudiant et puis ensuite
il fait semblant de se marier,
il essaie de se raccrocher une autre branche, donc il se marie avec une personne de nationalité française. Donc, ça reste quand même, encore une fois, des questions légitimes. Maintenant, il faudrait faire en sorte de rectifier le tir auprès... Bon, alors là, par l'intermédiaire de votre avocat, évidemment. Il faudrait surtout pas que le juge ait l'impression, Adil, que vous êtes, entre guillemets, l'auteur de ce qui pourrait être considéré comme une supercherie concernant ce mariage. Et il faudrait pas que le divorce soit prononcé à vos torts au motif que tout ça sent l'arnaque au mariage. Et en droit, on dit la fraude au mariage. Parce que, bon, alors que le divorce soit prononcé à vos torts, dans l'absolu, ça fait pas forcément plaisir, mais c'est pas si grave que ça, sauf que pour vous, les autorités préfectorales pourraient ensuite se baser sur ça pour mettre un coup de gourdin sur la tête. Donc il faut quand même, dès à présent, batailler sur le terrain et fortement pour pas que le magistrat ait cette impression.
Donc, c'est-à-dire que je dois changer mon statut avant que je divorce?
Non, mais là, ça n'a aucune incidence. Non, j'allais presque dire que si vous changez votre statut, vous savez, la préfecture...
Là, ça va encore être un truc en votre défaveur.
La préfecture n'est pas folle. Elle va se dire, d'accord, le type veut faire le malin, alors c'est peut-être son avocat qui lui a conseillé, mais non, ne changez rien, allez jusqu'au bout de votre procédure. Après, il faut quand même faire en sorte, mais là, après, ça va être aussi, et votre explication et le rôle de votre avocat, de donner un motif sérieux à cette séparation. On a le droit, hein, quand on est étranger, de se séparer, mais il faut faire en sorte de pas paraître pour le méchant ou pour le malin dans l'histoire.
En fait, je vais juste vous dire quelque chose d'indiscret. En fait, moi, c'était un vrai mariage avec mon ex, avec ma femme.
C'est, pardon ?
Moi, c'était un vrai mariage. C'était pas un mariage gris ou blanc. Et j'ai toutes les preuves pour... J'ai pris, pendant notre durée de couple, j'ai pris des preuves contre elle. Parce que voilà, il s'est passé des trucs pas bien. Et j'ai eu les preuves comme quoi c'est elle qui a voulu divorcer, qui s'est en gros foutu de ma gueule, quoi.
Non mais, encore une fois, c'est tant mieux pour vous si vous avez ces éléments-là. Ce sont ces éléments-là qu'il faudra invoquer. Il faut quand même comprendre qu'il y a presque une sorte de postulat dans ce pays. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne en situation régulière mais étrangère, vous mariez avec une personne de nationalité française, vous êtes toujours suspecté. Ouais, c'est ça la difficulté.
Adil, écoutez, on a pas mal d'autres appels. Donc ce que je vous propose, parce que là on commence vraiment à rentrer dans les détails de votre dossier, ce que je vous propose, c'est d'adresser un mail à Maître Serran.
Ouais, éventuellement,
qui va vous envoyer, qui va vous rappeler son adresse mail.
Vous pouvez m'envoyer un mail sur maître.serran. Serhane @gmail.com.
Voilà, et comme ça vous pourrez poser des questions un peu plus détaillées. Merci Adil de votre appel.
Merci à vous.
Allez, avant la pause, on va prendre rapidement Amaria. Bonjour Amaria.
Allô?
Oui Amaria, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle Maître pour une question, s'il vous plaît.
Allez-y Amaria, je vous écoute.
Oui, en fait, j'ai mon beau-frère qui est en France. C'est l'ex de ma sœur. Et du coup, il a fait la demande de sa nationalité française. Il a deux enfants avec ma sœur en Algérie. Mmh. Du coup, le grand, il a 19 ans et le petit, il a 16 ans. Il a dit, en fait, que est-ce que normalement, quand il reçoit sa nationalité française, est-ce qu'il peut mettre ses enfants avec lui ou pas ?
Alors, la règle étant qu'à partir du moment où le dossier que vous remplissez, vous indiquez que vous avez des enfants qui sont mineurs au moment où la décision est prise. C'est-à-dire que à partir du moment où les enfants sont majeurs, les enfants se débrouilleront. Ils sont pas concernés automatiquement par la nationalité du père, mais tous les enfants mineurs vont pouvoir en bénéficier sous réserve évidemment, j'allais presque dire de les déclarer. Alors quand je dis déclarer, c'est pas les déclarer à l'état civil, c'est qu'on a parfois des gens qui atterrissent au cabinet qui disent je comprends pas, j'ai des enfants mineurs et ils ont pas bénéficié de la nationalité. Et quand on leur pose la question ou quand on consulte le dossier, les intéressés n'ont même pas précisé qu'ils avaient des enfants. Donc, à minima, faut informer l'autorité française et dire qu'on a des enfants.
Et parce que lui, il a fait sa demande de nationalité quand le grand, il avait pas 18 ans.
Alors, il en bénéficiera quand même. Voilà, c'est-à-dire que c'est c'est à partir du moment où vous avez fait votre déclaration. Alors, on sait que ce sont des procédures qui sont très longues et parfois les enfants, j'allais presque dire de facto, finissent par devenir majeurs, mais ils en bénéficieront s'ils ont été déclarés en temps et en heure. Là, il n'y a pas de difficulté.
Il n'y a pas de difficulté. D'accord. Ben merci beaucoup. C'est juste la question.
D'accord. Ben merci à vous de nous avoir appelés.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.
Je crois que Manu s'est endormi.
Oui, pardon. Oui, absolument, je m'étais endormi, c'est comme ça. Alors, on va faire une petite pause, Maître Serran.
Bah oui.
Et on reprend des appels juste après cette pause. À tout de suite.
À votre service, reviens dans un instant. À votre service, reviens dans un instant.
C'est à toi, Manu.
Ah! Alors, bon, on a eu un petit loupé sur la reprise. Donc, de retour avec Maître Serran. Et on va prendre un appel directement. C'est Rachid qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Rachid.
Oui, bonjour Manu, bonjour Maître Serran.
Bonjour Rachid. Bonjour. C'est le même Rachid que tout à l'heure, là, celui qu'on a essayé de joindre. Alors ouais. Rachid.
Bah, vous étiez parti où Rachid? On vous a cherché partout.
Non, j'étais avec vous, hein.
Bon, on vous écoute Rachid.
Je suis fidèle. Adore FM.
Rachid, vous avez la radio allumée à côté de vous ou pas?
Je suis avec un Bluetooth.
Ah ouais, mais alors, ouais, bah essayez de prendre le combiné dans la main parce qu'on vous entend très très mal.
Allez, allez, c'est bon.
Ah ouais, on vous entend mieux. Rachid est de retour.
Merci, merci.
Allez, on vous écoute. Sérane.
Moi, je suis marié en 2012, en Algérie.
Mm-hmm.
J'avais une résidence de 10 ans. Et après, on va dire un an, j'ai ramené ma femme, alhamdoulilah. Après, on a eu un garçon. Et après, j'ai eu ma nationalité française. Alors, automatiquement, le garçon, il a eu sa nationalité. Et j'ai un deuxième encore, la nationalité. Par contre, ma femme, elle ne s'est jamais intéressée pour la nationalité. Et maintenant, elle me demande de la faire. Alors, elle a passé le test français, normalement, tout va bien. Sachez qu'elle n'a jamais travaillé ici en France. Est-ce que ça ne pose pas de problème sur les fiches de paie, ça et ça?
Alors, ça pourrait lui poser un problème si effectivement elle n'était pas mariée et puis en qualité de célibataire, elle demande la nationalité française. Mais à partir du moment où on prend en considération quand même le couple, c'est-à-dire que si vous travaillez, vous arrivez à subvenir aux besoins de la famille. Voilà, donc on va pas la tacler là-dessus en lui disant, en gros, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui veulent être de nationalité française, tous ceux qui veulent acquérir cette nationalité auraient l'obligation, un, de travailler et deux, entre guillemets, de gagner correctement leur vie. Mais là, dans cette hypothèse-là, c'est un argument qui ne sera pas, comment dire, recevable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui reprocher. Si, encore une fois, je le redis, si de par votre activité professionnelle, de par votre salaire, vous faites vivre votre famille correctement, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Moi, je ne mets pas les aides, moi. Je n'ai jamais eu les aides, à part les allocations.
Oui, ce sont des aides, mais encore une fois, des aides légitimes, encore une fois. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, mais ça, il n'y a pas, on peut pas vous tacler ou vous reprocher ça. Non, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire, je vous le redis, ça concerne essentiellement, la personne seule, et on peut lui dire, attendez, vous êtes gentil, vous travaillez pas, vous subvenez pas à vos besoins. Même chose pour un couple où ni monsieur ni madame ne travaillent ou vivent, voilà, qu'avec des minima sociaux. Mais là, pour vous, en tout cas pour madame, mais par votre intermédiaire, on va dire, il n'y a pas de difficulté.
Même elle a jamais eu de le RSA ou rien.
Non, encore une fois, on peut dans son parcours être en difficulté, inscrit à Pôle emploi, être au chômage, percevoir le RSA. C'est-à-dire que l'administration française, aussi compliquée soit-elle, va pas vous ressortir ça.
Oui, en revanche, le cas de Rachid n'a pas l'air d'être un cas compliqué.
Voilà, mais c'est vrai que la personne qui serait au RSA, la personne qui dit je viens de m'inscrire à Pôle emploi, la personne qui ne peut pas, on va dire concrètement, subvenir à ses besoins en dehors des minima sociaux, là évidemment ce serait, en tout cas c'est un point négatif qui est souvent mis en avant par l'administration pour dire, en gros on vous dit écoutez on va ajourner, c'est-à-dire revenez nous voir dans 2 ans ou dans 3 ans. Pour voir si la situation de l'intéressé a changé ou évolué. Mais vous êtes, Rachid, à des années-lumière de cette situation. Donc non, là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Encore que, je vais quand même être prudent parce que c'est souvent quand on dit il n'y a pas d'inquiétude à avoir que l'administration vous apporte des réponses qui sont totalement biscornues. Ça se dit encore biscornu comme terme,
je oui, sais pas. Bah, ouais, ça se dit encore. Moi je le dis aussi, mais enfin, je suis vieux comme vous,
même plus vieux je crois. Mais non Rachid, il y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Encore une fois, vous justifiez de pouvoir faire vivre la famille correctement, donc on va pas tacler madame sur cet aspect-là.
Et pour le dossier, ça va être une naturalisation ou quoi sur elle?
Ah bah là oui, enfin à moins qu'elle ait demandé une réintégration, mais là c'est des conditions qui sont très particulières, mais c'est une demande de naturalisation bien sûr.
D'accord. OK.
Voilà, mais vraiment c'est le souci viendra pas de là hein. Donc là il y a pas de difficulté à avoir. Sous réserve évidemment que vous restiez marié avec madame jusqu'à ce qu'elle formalise sa demande.
Parce que là, il y a eu le problème de sa sœur, c'était ça, elle l'ont refusé la nationalité à cause de le travail, elle a jamais travaillé.
Voilà. Bah ouais, mais alors, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que si sa sœur fait une demande en qualité de célibataire, elle travaille pas, ou si sa sœur est mariée, mais que
elle est mariée,
voilà, mais que monsieur ne gagne pas suffisamment, vous voyez, on prend ça en considération. Voilà. Ben voilà, mais ça alors je dis pas que c'est bien, mais la réponse est légitime, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire, attendez, on considère que vous ne gagnez pas suffisamment. Bon, moi je trouve ça quand même assez curieux, parce qu'en quoi le fait de gagner suffisamment ou pas est lié directement à sa volonté de devenir français, Bon, on peut s'interroger là-dessus. Mais, je le redis, si vous avez un salaire, entre guillemets, vous me dites que votre salaire est correct et qu'il n'y a pas de difficulté, je vois pas pourquoi on taclerait votre épouse là-dessus.
Bah, je dépasse les 2500 avec deux enfants.
Bon, après, il y a le salaire, mais il y a aussi les dépenses. Vous voyez, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si vous me dites, vous dépassez les 2500 et vous avez un loyer à 2000 euros, enfin, vous comprenez, non. Ou un crédit à 2000 euros. Donc voilà, après, tout est relatif. Mais non. C'est vrai que ce sont des éléments qui sont évidemment pris en considération. Et là, a priori, vous êtes, comme dirait l'autre, dans la moyenne. Il faudrait des arguments très sérieux pour l'administration pour le refuser à madame.
D'accord. Ah ben, merci.
Merci à vous, Rachid.
Merci de votre appel, Rachid.
Bon fin d'année.
Merci, à vous aussi, excellente fête et bonne santé. Allez, si vous souhaitez nous appeler, 01 53 48 3000, peut-être pour un dernier appel, juste après, Méni du 94. Bonjour, Méni.
Bonjour.
Oh là là, Méni, Méni, qu'est-ce que c'est que ce son? Vous avez mis l'ampli, vous avez le kit main libre, vous avez la radio allumée?
C'est bon, vous inquiétez pas, monsieur Mariani.
Je m'inquiète, parce qu'on vous entend pas, Méni. C'est pour ça que je m'inquiète.
Ça y est, je l'ai enlevé, parce que c'est en attendant que
d'accord.
Que j'attendais mon tour.
Ça marche. Ça, alors, quelle est votre question, Méni?
Bah, c'est au sujet d'une affaire familiale, au sujet de la mère de ma fille, de 8 ans et demi. Voilà, donc, je suis en procédure à la Cour d'appel de Paris. C'est la mère qui a fait appel en novembre 2017 pour faire réviser mes droits. Et elle a fait appel à la Cour d'appel de Paris pour harcèlement, comme quoi j'harcelais, alors que je n'ai pas son numéro de téléphone depuis mai 2015. Je n'ai plus son numéro de téléphone depuis mai 2015. Et je n'ai eu son adresse que récemment lorsqu'elle a fait appel à la Cour d'appel de Paris, par le biais de la déclaration d'appel de madame. D'accord. Voilà. Donc, voilà.
Alors, juste pour comprendre, Méni, pardon, je vous coupe deux secondes, juste pour comprendre. Allez, la première décision qui a été rendue, est-ce qu'on parle quoi, d'une procédure de divorce, juste d'un juge aux affaires familiales? Elle a fait appel de quoi?
Excusez-moi, je vous ai pas dit d'abord. Ah oui, elle a fait appel, comme je vous ai dit, en fait, pour réviser mes droits, parce que j'ai un droit de visite un dimanche sur deux.
D'accord. Est-ce que ça, c'est dans le cadre? Vous étiez marié avec madame?
Non.
D'accord. Donc, c'est un juge aux affaires familiales. Donc, c'est pas le juge qui prononce le divorce. Donc, il y a une décision qui est rendue par le juge aux affaires familiales. Donc, il vous accorde des droits. Et, elle a interjeté appel de ça.
Ça va faire quand même le quatrième jugement.
D'accord.
Parce que je suis en procédure avec elle depuis 2013.
Il y a des gens qui sont procéduriers. D'accord. Donc là, vous êtes devant la cour d'appel et elle réclame quoi, elle, devant la cour d'appel?
Bah, elle fait appel pour réviser mon droit et elle est partie dire comme quoi je la recevais, comme je vous ai dit, maître. Et en fait, j'ai pas son numéro de téléphone depuis mai 2015 et ni son adresse depuis décembre 2016.
Alors, vous faites comment? Vous exercez votre droit sur l'enfant ou pas?
Oui, j'exerce mes droits, oui.
D'accord. Donc, mais alors, l'enfant, vous allez le chercher, ça se passe comment?
Bah, ça se passe pas très bien parce que j'ai son fils qui il vient souvent en retard, il refuse de rattraper le retard. Donc il y a des complications. Quand je veux lui demander de rattraper le retard, il me dit prends ça, fille, genre et tu pars ou sinon.
Je veux dire pourquoi je vous pose la question. Vous me dites que vous aviez pas son adresse. C'est-à-dire, c'est une question qui vous sera posée en tout cas qui va interroger le juge. C'est-à-dire que si vous connaissez pas l'adresse, vous exercez votre droit à l'égard de l'enfant comment concrètement?
En fait, je voyais ma fille avant trois fois par mois, je vais la récupérer pendant deux ans par le biais d'un point neutre, par le biais d'une association d'éducation familiale.
D'accord.
Pendant trois ans, depuis novembre 2016 jusqu'à mai 2018, et là depuis récemment, juin 2018, je la récupère que par le biais d'un point neutre, convenu par le biais de l'association et la mère de ma fille et moi. Mais en fait, normalement, c'était prévu à côté du commissariat de chez elle, mais elle a changé d'avis, normalement, et c'est à côté du commissariat de chez elle, à Montreuil, mais là, maintenant, c'est au commissariat de Magnolet, là où elle habitait avant. Donc, j'ai pas compris, c'est bizarre, déjà, à la base, donc c'est pas normal. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Il y a ma fille qui a été auditionnée par le juge des affaires familiales de Paris, le 12 septembre.
D'accord.
Par le biais d'un dessin, c'est tout, hein. Un dessin qui...
Excusez-moi, Méni, mais niveau son, là, on a de nouveau un problème. Là, on vous entend à nouveau plus du tout. Je ne sais pas si vous êtes repassé en Bluetooth ou en ampli, mais là, on vous entend
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, okay. Non. Ah non, bien sûr que non.
Allez-y, poursuivez. Et rapidement, parce qu'on va prendre un dernier appel juste après.
Si d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, à la fin, un dessin sur lequel elle avait écrit une inscription, un dessin qui a fait une maison et une femme, et elle a dessiné des bonbons. Et elle a tout de suite averti le juge, je voudrais vous voir s'il vous plaît. Mais l'écriture qu'elle a ne correspond pas du tout à l'écriture qu'elle a d'habitude. Même la, sa professeure que j'ai été voir, sa maîtresse, elle m'a dit non, c'est bizarre cette écriture-là, c'est pas normal. C'est pas son écriture quand on a vu ses cahiers. Le juge voudrait vous voir s'il vous plaît. Et dans l'audition de ma fille niait cette audition-là. Elle m'a dit non, elle a jamais demandé cette audition-là. À chaque fois que je lui pose la question, elle me disait non, 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 tout le temps. Et dans l'audition, ma fille, bon, elle a dit des mensonges très odieux. Ce qui est strictement pas vrai. Comme quoi, je ne lui donnais pas à manger, si elle ne me, elle ne me laissait pas lui mettre de la pommade dermatologique sur une toute petite cicatrice qu'elle a sur le front et sur ses irritations cutanées parce qu'elle a des joues très fragiles, très sensibles. Et comme quoi, elle voulait plus me voir deux fois par mois, mais qu'une fois par mois. Et tu l'as obligée à être première de la classe, alors qu'elle était déjà deuxième de la classe, alors qu'elle n'est pas deuxième de la classe.
En gros, Mélie, ouais, vous pensez que sa maman l'influence.
Voilà, c'est-à-dire que juste pour résumer,
Pour résumer, en fait, une intrusion de la mère, elle l'a manipulée psychologiquement, elle a eu une pression psychologique pour pouvoir utiliser son audition à son bénéfice, à l'instrumentaliser en quelque sorte. Voilà.
Ok, bon. Alors rapidement, parce qu'on va devoir conclure, Ménie, qu'est-ce que vous conseillez à Ménie, maître Serran?
C'est très compliqué, vous savez, même quand des clients nous disent « Bah maître, est-ce que vous pouvez demander au juge d'auditionner mon enfant ?» Il faut savoir que l'audition... Le père, la mère, les avocats des uns et des autres ne sont pas présents. C'est-à-dire, il y a l'enfant, il y a le magistrat, et puis l'enfant peut éventuellement être assisté par un avocat. Donc c'est vrai qu'on peut pas, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais contrôler ce qui se dit par l'enfant. Donc l'enfant, il dit ce qui lui passe, je veux dire, par le cœur, mais ce que dit l'auditeur est une réalité. Il est certain que si l'enfant passe 24 heures sur 24 son temps avec la mère, ou dans d'autres circonstances avec le père, évidemment, il y a toujours cette influence-là, c'est-à-dire qu'on essaie de préparer psychologiquement l'enfant. Mais le juge, qu'on le veuille ou non, va se calquer sur les déclarations de votre enfant, même si vous me dites que c'est un mensonge. Donc c'est quand même très difficile à combattre, hein, ce genre de déclaration de votre propre enfant.
Ok, maître Serran, je vous propose de laisser votre adresse email à Ménie pour éventuellement poursuivre la discussion, parce qu'on va prendre un dernier appel. On approche de la fin de l'émission.
Donc n'hésitez pas à me contacter.
Voilà,
sur
maître.serran, serhane @gmail.com.
Voilà.
Voilà, Ménie, merci de votre appel.
Merci. Allez. Très bonne fête, très joyeux Noël.
Merci à vous aussi, Ménie, et bon courage. Allez, un dernier appel. Leïla de Toulouse, avant de rendre l'antenne. Bonjour, Leïla.
Oui, bonjour, messieurs.
Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, allez-y.
Oui, je sais, les situations comme ça, elles sont très difficiles, très délicates à expliquer. Voilà, moi, ma situation, je me suis mariée avec un Français au Maroc. Il était musulman déjà. Je l'ai connu comme ça. C'est pas moi qui l'a influencé ou qui l'a lui imposé de se convertir. Sauf que là, en ce moment, voilà, on est arrivé au divorce. J'ai déposé une requête de divorce en 2017. Monsieur, ce qu'il a trouvé comme solution pour me retirer mes enfants, allez, madame, elle est radicalisée. Voilà, et il utilise tous ses moyens pour m'enlever mes enfants, alors que tout au début, il ne les a pas demandés. Il a demandé au juge ce qu'il a appelé, lui, une garde alternée, qui commence tous les vendredis à midi, qui se termine le lundi soir. Ça, le juge, il n'a pas compris. Après, il change carrément de billet, il va demander la garde exclusive, parce que madame, elle est dangereuse et on ne peut pas, voilà. L'enquête est faite. Il y avait une enquête sociale, une enquête psychologique. Il y a beaucoup de choses qui sont en route, qui m'a mis sur le dos. Après, voilà, les rapports, ils sont positifs, on va dire, à mon égard.
En votre faveur, d'accord.
Voilà, mon faveur, à ma faveur. Mais après, quand même, je suis une maman qui est un peu inquiète de perdre ses deux enfants. Surtout que le grand, il est en situation très difficile, hein, il est autiste. Et monsieur, il est déjà, voilà, il me dit que madame, elle me trompe et ses enfants, c'est pas les siens. Et il veut quand même la garde. Après, il se met en couple en février. Moi, j'ai quitté la maison le 20 octobre 2017 et j'arrive même pas à prouver qu'il est en couple et que c'est lui qui est en tort, alors qu'on n'est même pas divorcé. Moi, j'ai confiance en justice française, sauf que la justice française, elle a besoin de preuves. Mais comment faire pour avoir ces preuves-là?
Mais même chose, vous dites que la justice française a besoin de preuves, que vous êtes en difficulté pour apporter des preuves, on peut le comprendre, mais ce principe d'épreuve va s'appliquer à monsieur aussi. C'est-à-dire qu'à charge pour lui de démontrer, puisque vous me parlez d'autorité parentale exclusive, c'est pas rien de demander l'autorité parentale exclusive. Ça voudrait dire que monsieur doit démontrer que vous êtes d'une incompétence extraordinaire, vous ne pouvez pas vous occuper des enfants, ou alors que vous avez une vie peut-être un peu légère et que ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Donc, tout ça pour vous dire que lui aussi devra prouver tout ça. Donc, oui. Et le raisonnement est le même pour monsieur et madame, c'est-à-dire que celui qui fait simplement des déclarations mais qui ne peut pas les étayer par des témoignages, par des preuves directes ou indirectes, bah, le magistrat va considérer que ce sont que des blablas et ça n'ira pas plus loin. Donc, d'accord. À moins évidemment qu'il ait versé des éléments sérieux à votre rencontre, mais si ce n'est pas le cas, Je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter au moment où on se parle.
D'accord. Après, pour prouver que monsieur, il est en couple, c'est ça, ce que je vous dis.
Ah, bah oui, mais là, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que pour prouver qu'il est en couple, bon, sauf si vous le pistez, et puis il va falloir, entre guillemets, le prendre en photo.
Mais Cern, ça se fait toujours, ça, de ça, prendre un détective pour avoir des preuves.
Ah, mais bien sûr,
ouais.
Bien sûr. D'ailleurs, la prochaine émission qu'on fera, je parlerai de ça, puisqu'on a des détectives dans ce type de dossier. Mais vous n'êtes pas obligé de faire appel à un détective. C'est-à-dire que si vous voulez pister vous-même monsieur et le prendre, mais alors en flagrant délit, ça va être un peu compliqué.
Voilà, on va s'arrêter là, Leïla, malheureusement, parce qu'on doit, on arrive au terme de l'émission.
Merci beaucoup.
En tous les cas,
merci à vous, Leïla.
Merci de votre appel, bon courage, et puis bon détective, alors.
J'appellerai la prochaine fois, puisque c'est le sujet.
Absolument, oui, rappelez-nous la semaine prochaine.
Merci beaucoup, bon cette semaine d'année, au revoir.
Allez, Maître Serran, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Restez sur Beurre FM pour la suite des programmes.